Bonjour à vous toutes et tous pour ce dernier numéro de la saison 2022 de L'Or des Curieux. Émission écrite, conçue et présentée par Robert Giroux. Je retrouve avec grand plaisir Simon Martin à la prise de son. En cette fin d'année 2022, où le réel, une fois de plus, se sera montré pingre en bonne nouvelle, la musique vient à notre secours. Cela n'est pas son attribution, je sais, ça n'est pas son rôle, bien sûr. Elle ne vient pas pour colmater quelques brèches ou se substituer à la réalité, non. Elle vient en prononcer une autre, toute différente. Nous rappeler à la prépondérance de l'esprit et de l'âme et à leur puissance. Elle vient murmurer, éclairer, éveiller, faire battre notre cœur plus et mieux, là précisément où le cœur a son empire, c'est-à-dire en bordure du réel, juste avant, là où encore l'esprit pourrait être infléchi, la main retenue, la décision plus juste. La musique s'adresse à cette part de l'être qui peut toujours être rendue meilleure, être transformée, être tout autre, être guérie d'elle-même. Aux dernières heures de ce mois de décembre 2022, vient de paraître sur le label La Musica, Gymnopédie et Gnossienne d'Eric Satie par Denis Pascal au piano. Alors ouvrons ce cadeau splendide, car c'en est un. Ouvrons-le avec lenteur, avec délectation. Ouvrons-le ensemble et voyons un peu ce qu'il y a là. D'Eric Satie, bien peu de choses en vérité ont été dites. Et qu'aura-t-on cherché au-delà d'un certain nombre de clichés, d'idées toutes faites, d'apparence trompeuse. La silhouette saisie au vol dans une antique pellicule, le frac, le chapeau et ce parapluie qui, plus que le protégé du gros temps, aura fait un peu trop d'ombre sur qui il était en vérité. Au nom d'Éric Satie répond encore trop souvent une espèce de sourire snobinard, sûr de soi, dépréciateur, comme à dire « Oh, sa musique n'était trop rien, mais il était tellement drôle ». Argument sentant fort la poudre de riz et les arrière-cours de la pensée. De ce qui fait naître en nous un rire ou un sourire, peu de choses en vérité seront heureuses ou insouciantes. Qui aura eu, comme moi, la chance de voir Raymond Devos sur scène, saura que plus inextricable sera la situation et l'enchaînement des faits, et plus solitaire sera le personnage qui y est exposé, et plus nous rirons, jusqu'en être malades de rire quelquefois. Nous rirons presque d'épouvante, parce que de là où nous sommes, ce malheur-là ne peut nous atteindre. Nous rirons par bravade, et comme pour conjurer le sort. L'humour est sans doute la seule arme par laquelle nous puissions défier le mal, le rendre à sa vraie dimension. C'est cet humour-là, précisément, que pratiquait Éric Satie. Alors avec Satie, ne serait-il pas temps, enfin, de briser le parapluie, de rajuster la mire, afin qu'apparaisse non plus seulement une silhouette, mais du détail, des traits, un visage, un être entier. Si d'Éric Satie vous cherchez quelques vérités de traits, il faut bien entendu lire Satie lui-même dans ses écrits. Vous y verrez que plus que la fantaisie pure, ce qu'il maniait à merveille était l'art d'une certaine distanciation d'avec l'immédiat. Il était clair que Satie avait acquis une sorte de réflexe. Il voyait dans les impondérables ce qu'il avait envie d'y voir, et pas ce que la vie lui imposait. Il improvisait sur le pouce, avec la solitude, le malheur, la détresse. C'était bien assez de les endurer. Il n'aurait ni son âme, ni sa musique. Alors s'il est un ouvrage à conseiller vraiment pour une juste approche de qui pouvait bien se cacher derrière le nom d'Éric Satie, c'est celui de Jean Viennaire, ses mémoires qu'il avait intitulées « Allegro appassionato ». Jean Viennaire et Satie étaient amis. Ils se sont connus, ils étaient donc amis, tellement qu'Éric Satie fera de Jean Viennaire son exécuteur testamentaire. À la mort de Satie, Viennaire dut donc ouvrir au notaire la porte de l'appartement d'Éric Satie, afin que ceux-ci puissent évaluer ses biens. Ce qu'ils découvrirent alors, en poussant la porte de cet appartement, soigneusement tenu secret jusqu'alors, dit le vrai sur Éric Satie. Solitude, désordre, misère, saleté. Personne jamais n'avait raccompagné Satie jusque chez lui. Il se faisait toujours déposer à une vingtaine de kilomètres et disait toujours « Oh, déposez-moi ici, je vais finir à pied, marcher me fera le plus grand bien ». La réalité de cette détresse et l'ingéniosité avec laquelle il a pu la cacher, tout cela donne de lui une dimension tout autre que celle que nous avons pris l'habitude de lui accorder. Satie était un musicien du quart monde, peut-être le seul que nous ayons jamais eu. Non, il n'avait rien de drôle à dire ou à montrer ou à faire entendre. Preuve en est qu'il a si bien su nous persuader du contraire. Peu d'interprétations ont su jusqu'ici éclairer les tourments, voire la détresse de l'âme de Satie. Toujours l'élégance, on joue du bout des doigts, comme si c'était un mot d'esprit en musique. Très peu d'interprètes ont su éclairer la complexité et parfois l'inextricable, l'irrésolu dans sa musique. Il erre, il prend des chemins de traverse et brouille notre entendement. Est-on dans la bonne direction ou bien sommes-nous égarés? Et est-il possible qu'un égarement soit d'autant de beauté? Ici, le musicien qui me paraît le plus proche de Satie dans son piano serait le grand Alexandre Scriabine, lui aussi tellement complexe, enchevêtré, tortueux. et nous conduisant vers plus d'égarement ou d'irrésolution encore. Ces deux musiciens n'ont pas de réponse toute faite à nous donner, si ce n'est le périple de musique et les vertus curatives du périple. Je n'ai jamais ressenti la musique d'Éric Satie comme étant heureuse, paisible, sereine, détachée, mais au contraire, j'y ai toujours trouvé une confrontation cuisante avec la dépossession de soi-même, de tous ses moyens, l'effritement de la personnalité et des forces. Et si cette musique est belle, et elle l'est, c'est de la beauté du déclin, de la beauté de l'épuisement. Aldo Ciccolini, de par son engagement et sa foi devant le clavier, a donné de l'intensité à cette musique, de la hauteur et aussi de la perspective. J'aime aussi la vue de Marie-France Clida sur Satie, celle d'Anne Kefelec, bien sûr, mais aussi et peut-être surtout celle de Francis Poulenc, qui peut aujourd'hui peut-être passer pour un peu rugueuse, mais qui est d'abord pleine de justesse et de vie. Il jouait du piano comme un compositeur joue, signifiant qu'une note est d'abord un matériau à travailler, à tordre, à cuire, et que ce travail-là était plus sensible dans son jeu que dans le jeu d'un pur interprète. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours écouté, et avec le plus grand soin, toutes les versions, même de pièces isolées, éparses, qu'ont pu livrer ici ou là, tous et toutes les interprètes, pianistes ou non d'ailleurs. Aux amoureux d'Éric Satie, je ferai écouter à la première occasion qui se présentera la splendide lecture pour guitare 10 cordes qu'en filme magnifique Pierre Lagneau. Si je reviens aujourd'hui sur celui qui est, et avouez que j'en fais peu mystère, l'une de mes plumes favorites, c'est que paraît ces jours-ci une interprétation émanant de celui qui est très certainement l'un de nos plus grands pianistes. Et nous n'en manquons pas. Et à Radio Grand Ciel d'ailleurs, nous n'avons pas à regarder très loin pour en apercevoir un. Frère Jean-Claude, ne voyez-vous rien venir ? Je veux vous parler pour aujourd'hui de Denis Pascal. Les auditeurs les plus attentifs de L'Or des Curieux se souviennent très certainement de son interprétation de Soir à Juan-les-Pins de Jacques Dupont, et plus récemment de la mention que fit de lui Fanny Vicens lors de l'entretien que j'eus la chance d'avoir avec elle. Fanny Vicens a été son élève de piano et son professeur lui est demeuré cher et précieux. De cela, je puis en témoigner. De Denis Pascal, il faut d'abord peut-être rappeler et situer les choix de répertoire toujours très exigeants. Schubert, Liszt, Ravel, Chopin, Brahms, Jacques Robert, Alban Berg. Il vient donc à ce jour de faire paraître sa version des faits concernant le cas Éric Satie, gymnopédie et gnossienne, chez le label La Musica. Je vous en laisse la référence complète sur la page de l'émission. Nous en écoutons un extrait. Le piano à la française, donc, que l'on rattache aux interprétations de la musique de Debussy, Poulenc, Fauré, Ravel, pour ce qui nous est le plus proche, et qui concerne également Erik Satie, est considéré depuis longtemps comme le meilleur angle possible pour aborder ces musiques et en faire restitution. Du moins a-t-il été au cœur de bien des interprétations. Alors nous nous devons, avec ce piano dit à la française, de lui reconnaître ses mérites. N'a-t-il pas permis que ces musiques prennent leur place distinctive et fait que le temps leur soit accordé de parvenir jusqu'à nous ? On comprend aujourd'hui par exemple que Ravel, s'il était fidèle à Rameau, Couperin, Heine et bien d'autres, était porteur d'une modernité telle que le beau diadème du piano à la française, son étoffe somptueuse, ne suffit plus à le dire tout entier, qu'il y faut plus de sens du risque, un esprit plus tranchant, un geste vif, une pensée rapide. Cela vaut aussi sans doute pour Debussy, ses études pour le piano, qui nous place au-devant des temps à venir, tant et si bien qu'elle nous y propulse et que nous y sommes déjà. En ces choses, Erik Satie est un phénomène rare, rarissime, éternellement curieux. Avec lui, le temps va à un rythme très particulier. Ses gymnopédies, lointaine cousine de la barcarolle, cousine méditerranéenne, d'une branche remontant loin dans le temps et l'espace, sont comme des esprits revenus nous visiter, esprits dont nous ne pouvons dire s'ils sont rieurs, ou plutôt des masques, ou tragiques, non pas tristes ou gais, mais s'ils sont la joie même, ou bien notre plus grand malheur se tenant face à nous. Le caractère essentiel de ces gymnopédies et de ces gnossiennes me paraît d'être complexe, multiple et infiniment fuyante, tout à fait à l'image de la vie telle qu'elle me paraît être. En musique, les choses ont ou n'ont pas de résolution. Certaines pièces, des symphonies par exemple, vous conduiront presque de la nuit au jour. Vous en comprendrez le trajet, comment en voir des images, des représentations nettes. Pensez par exemple à cette œuvre de Debussy, intitulée « La mer ». Par la musique, vous voyez les vagues, la tempête, l'accalmie, les éléments se dressent face à nous, ils sont présents et tout à fait sensibles. D'autres musiques vous diront d'autres choses, et pour les besoins du signifié de l'œuvre, vous conduiront par exemple du mystère à plus de mystère encore. Il faut repenser encore ici aux musiques de Scriabine, esprit tortueux, très sombre, au-dessus duquel pesaient d'effroyables fatalités. Le piano d'Erik Satie m'a toujours paru très proche voisin de celui de Scriabine. Malgré même cette langueur propre à Satie, cette lumière étouffante, ces ombres rendues imprécises et comme fantomatiques par la violence du soleil. Ce point où le ciel et la mer se rejoignent, mais où trop de lumière fait que l'on ne voit même plus le trait de l'horizon, et s'il y en a seulement un. Ce sentiment de se noyer dans un ciel qui n'en finit plus, cette sensation de n'avoir plus de terre sous nos pieds, cet égarement qui est déjà comme une mort possible, elle est aussi chez Scriabine, elle est la même que chez Satie. La musique d'Erik Satie m'est toujours apparue comme terriblement lucide, pleine de bravoure. Ici, l'élégance de cette musique, que dépeint à merveille, c'est vrai, le piano à la française, nous apparaît pour la merveille contradictoire qu'elle est. J'insiste sur le mot contradictoire ici, comme on le ferait pour Shakespeare, dont l'incroyable magnificence du vers aura éclairé jusqu'au sublime la noirceur de l'âme humaine, sa vanité, ses duperies, sa laideur. Plus Satie nous berce, nous murmure ses tendresses, plus et mieux il dépeint de nous ce que nous ne serons jamais. Ce que contient la musique de Satie, c'est ce que nous perdons jour après jour, ce qui nous fuit, le songe d'une vie qui ne sera jamais la nôtre. J'ai toujours perçu sa musique comme étant, au fond, assez dure et totalement vraie. Elle ne me berce pas, ne me parle pas de quelque pays des songes. Elle me paraît tout sauf plane, étale, sereine, tout sauf apaisante. C'est une musique qui me place dans des positions tout à fait improbables, inconfortable et qui tendrait plutôt à rompre ce qui m'est un équilibre. Musique qui me fait me tenir debout sur un seul pied, me fait vaciller, me rend incertain, au bord de tomber. Musique de fortes contradictions, fuyant les évidences. Musique de rares caractères, allant chercher parfois l'ironie, le grotesque, le ridicule. Cela au sein d'un désespoir absolu. Il est le musicien des sentiments mêlés, de l'alliance des contraires et souvent des extrêmes contraires. Et tant le choix de ses motifs que sa matière de compositeur lui confère une place unique sur ce point hautement névralgique qu'est le passage du XIXe au XXe siècle, qui régit encore énormément de choses dans l'évolution actuelle de la musique. Voilà, je ne dis pas qu'on n'évolue pas assez vite, je dis simplement qu'en musique, un siècle, ça n'est rien, deux siècles, ça n'est pas grand-chose, et trois siècles, on les remarque à peine. Le temps de la musique n'est pas notre temps. C'était là seulement quelques-unes des raisons pour lesquelles j'ai toujours pensé qu'il fallait à la musique de Satie les pianistes les plus forts, âmes et têtes bien faites et bien pleines, connaissant de la vie suffisamment de choses pour pouvoir manier à plein l'indécision, le doute, l'irrésolu, l'éclair de certaines foudres, le rire rentré, la désolation, la claire-vue, l'ironie, l'art de savoir hausser des épaules ou pouffer de rire dans sa manche tout en continuant de jouer du piano. Nous avons énormément de recours en nous pour ne pas donner les pleins pouvoirs même à la plus noire des désespérances. Et Satie nous en offre, nous en rappelle énormément. Tout y est bon pour lui, de l'ironie pure à la mine de dégoût, de l'énorme rigolade à la grimace enfantine, de l'indifférence vraie ou feinte à son propre sort, jusqu'à glorifier parfois, jusqu'aux plus courantes, aux plus quotidiennes, aux plus banales de nos manies. Satie ne néglige rien, ne sous-estime rien de ce qui fait nos vies. Sa musique me paraît donc avant tout travailler au corps tout ce qui peut nous éprouver, tout le mal que nous pourrions ressentir. De certains intitulés un peu fantaisistes, il est clair de voir qu'ils servent d'argument paravent pour dépeindre certains aspects plus sombres et que la fantaisie sert d'abord et sans doute uniquement à éviter la prétention, la redondance, l'emphase. Avec l'air de plaisanter et de ne pas y toucher, Eric Satie nous ausculte, nous passe au rayon X. Ne pas s'abuser de son bésicle. C'est une redoutable machine à disséquer les êtres. Satie vous divertit, Satie vous amuse, il vous plaît. Alors comment trouvez-vous l'image de votre squelette en transparence, tel qu'il apparaît à la surface des plaques sensibles de sa musique? Dites-moi, que signifie cette tâche-là? Et ce déplacement ici? Ah, ça n'est pas drôle. La vie n'est pas un conte de fées, elle passe sur nous avec dureté, le plus souvent. Alors remercions qui doit être remercié, lorsqu'un artiste de la trempe d'Eric Satie se penche sur notre cas et en tire de telles chamarrures, autant de motifs. L'œuvre d'Eric Satie est tout entière à la gloire d'une humanité qui tend plutôt à nous ressembler. Il est inspiré d'un monsieur qui boite, ou qui a un gros nez, ou un sale carafon, d'un enfant qui joue, d'un singe qui danse, d'un acteur prétentieux. Et l'on cherchera ailleurs les courbettes et la poudre de riz. Satie vaut infiniment mieux et plus que cette simplette image du drôle de zig à parapluie, chapeau et binocle qu'on veut encore de nos jours lui fiche sur le dos. Je sais qu'en musique, comme en toute autre sorte de choses, il y a le sentiment particulier. On aime une chose, on l'aime moins, on ne l'aime pas. Et pour regrettable parfois que soit cet état de fait, il est incontestable. Mais la musique est un corps entier, unique, total. Il renferme tout et toute forme de sensibilité possible. De Tristan Muraille à Brahms, d'Un Suchin à Josquin des Prés. Il n'y a pas d'éternité figée concernant l'écriture en propre de la musique, elle se doit de progresser avec nous, et parfois, et souvent, au-devant de nous. Si vous vous proposez d'aborder le piano d'Eric Satie Alors je me permets de vous suggérer fortement, et disons-le, de vous recommander cette interprétation de Satie par Denis Pascal. Elle est remarquable de par sa hauteur de vue et son implication. Avec Satie, on a souvent fait la confusion du phrasé au motif, en privilégiant un seul aspect de son écriture, sa beauté plastique, ses grâces d'apparence. À un degré moindre, certaines œuvres de Debussy ont eu à souffrir de cela aussi. Denis Pascal vient ici nous rappeler tout à fait pertinemment que tout dans Satie, tout est d'abord musique, et qui raccrochait quelques traits aguicheurs ressortirait d'une vue, d'une appréciation tout extérieure, et non plus de la musique elle-même. Ainsi, Denis Pascal ne se fait jamais marchand de couleurs plus qu'il ne faut, et traite tout comme un fait de musique. Serais-je l'arpège le plus gracieux, le mouvement le plus sensuel, chose qui existe effectivement chez Satie, mais qui sont d'abord et exclusivement de la musique et doivent être traités comme tels. Il fallait bien un pianiste de l'envergure de Denis Pascal pour donner, redonner, ce poids à ce piano. De Schubert, nous avons aujourd'hui compris et appris comment jouer les pages les plus humbles. Ce piano ayant fait presque vœu de simplicité, de pauvreté, de frugalité, nous avons appris que ce piano est parmi les plus exigeants qui soient, du point de vue de l'interprétation et de l'esprit qui doit y présider. On pourrait aussi étendre cette remarque à Chopin, par exemple. Savoir, d'un canevas, d'une voilure réduite, de quelques indications éparses, trouver ce qui conduit à la musique, ce par quoi se fera l'éblouissement. Paul Klee faisait cela, surtout dans ses dessins, l'art de l'épure, du trait, des volumes réels ou suggérés. Alors Paul Klee, pour être très précis et ne pas parler en l'air, Paul Klee, dessin, édition du Chêne, l'édition date de 1975, donc allez chercher dans les livres rares et anciens, sur la toile, bonne chance. Cet art de rebattre les cartes du réel, et qui est vieux comme le monde, depuis la fatrasie médiévale jusqu'au surréalisme, eh bien, il y a très probablement chez Satie de cette dimension imaginative. Le réel n'y règne pas en maître absolu et unique. Pour cela, la vie suffit largement à Satie et à nous. Satie éclaire de nos vies des instants, des situations, des personnages, des caractères, soit éminemment singuliers, soit très proches, banals presque, quotidiens. Et il y révèle très souvent le charme et la beauté du quotidien, comme une magie cachée. Ainsi posé, on peut donc voir que Satie a un domaine d'expression incroyablement vaste et différencié. On peut aussi voir à quel point est décisif sa facture, sa patte de compositeur. Son très très grand caractère, la force et la précision de son trait, et non pas uniquement la beauté des couleurs, qui existe bel et bien, mais n'est qu'un élément isolé au milieu d'un océan de musique. Saisir son étendue me paraît le plus important. Ses musiques de scène, ses tentatives orchestrales ou chorales, rien ne me paraît à négliger pour l'aborder. Satie est d'abord d'un pianisme massif et très singulier, mais il n'est pas que cela. Sa façon de tourner la mélodie, de placer et déplacer l'harmonie, vient souvent d'ailleurs que du seul piano. On peut penser à la lyre antique, à la harpe, à la flûte. Il y a aussi la place de la chanson populaire, qui est sans doute aussi grande chez lui qu'elle l'était par exemple pour George Gershwin. Il faut aligner Satie autant sur l'antique que sur le contemporain et comprendre en quoi ceci ne fait pas un paradoxe, mais une simultanéité, comme c'était aussi le cas pour Olivier Messiaen. Être à la fois antique d'aujourd'hui, avoir la longue vue, voilà le credo, s'il en est un, de tout musicien contemporain. Satie en a peut-être ouvert le cycle pour la fraction de temps qui nous concerne. Les quelques impressions que je viens de vous livrer à propos d'Éric Satie ne révèlent que de ma petite personne avec toutes mes erreurs et sûrement toutes mes limites qui sont très grandes. Ce sont mes sentiments et non paroles d'évangile. L'esquisse d'une vérité, cela vient avec le temps et avec le temps le plus long. Aucun ne la détient en particulier et en exclusive. Nous en découvrons tous à un moment donné un lambeau. Et puis d'autres viennent, qui s'y ajoutent, qui nous corrigent, qui nous complètent. Et sans doute ne fait-on jamais rien d'autre que chercher pour la seule gloire de chercher. Satie s'installe progressivement, très lentement, très longuement dans l'histoire de la musique. À lui, il faut plus de temps qu'à d'autres, qui sont parfois entrés avec fracas et sortis avec fracas aussi. Et c'est en cette lenteur, en cette longueur, précisément, que j'ai confiance. Satie était plus sérieux et plus musicien qu'on aura bien voulu le dire. À ce qu'il paraît, les places sont chères à l'Olympe de la musique. J'ai choisi pour ma part de ne croire et de n'accorder ma confiance qu'à celles et ceux qui ne demandent rien, qui se fichent de l'Olympe et du reste, qui passaient simplement là juste pour nous faire un brin de musique. Je vous prie donc de bien vouloir accorder audience, par exemple, sur votre terrasse au clair de lune, à Eric Satie et tout son équipage, emmené ici de main de maître par Denis Pascal. À toutes et tous, je souhaite la force pour aller vers où se tient la lumière. Christ nous souhaitait la paix, nous donner sa paix. Qu'est-il possible de souhaiter qu'il soit meilleur que cela? Rien, sûrement. Alors qu'elle soit avec vous et qu'elle inspire autour de vous. Merci infiniment de prêter attention à mes petites émissions. À très bientôt. Au revoir.